Qui était Jésus de Nazareth? Était-il vraiment le Fils de Dieu comme il le prétendait? Je ne sais pas si nous nous rendons compte qu'il n'existe pas dans toute la pensée humaine une question aussi importante que celle-ci, à moins que ce ne soit la question que Ponce Pilate posa lui-même. Que ferais-je de Jésus, qu'on appelle Christ? Si nous devions opérer un sondage d'opinion, comme c'est la mode aujourd'hui, pour connaître justement l'opinion des gens sur la véritable identité de Jésus-Christ, nous n'obtiendrions, je le crains, que des réponses vagues, fantaisistes et peut-être même blasphématoires. J'aime à croire que quelques chrétiens seraient à même de proclamer tout hautement que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, comme le fit jadis l'apôtre Pierre, mais ils sont malheureusement assez rares. Jésus n'était qu'un homme, dit-on le plus souvent, pas plus divin qu'un autre homme. Il était bon, honnête, juste, etc., etc., mais il n'était pas Dieu. Nous serions surpris de constater combien sont nombreux ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ et qui œuvrent avec zèle pour détruire la foi en la divinité de Jésus-Christ. La Bible nous met constamment en garde contre eux. En face de l'action violente contre la foi, en face de l'ignorance à l'égard du Christ, en face des propos foncièrement bêtes ou d'attitudes simplement indifférentes, le chrétien doit réagir positivement. Il doit s'armer de la connaissance de l'Évangile et fortifier ses convictions par la prière et par l'étude. Car Jésus lui-même met à l'épreuve notre foi, en nous posant une question positive qui exige une réponse non moins positive. Cette question, il l'a d'ailleurs posée à ses apôtres. « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Que répondrons-nous ? Que c'était un homme bon et juste ? Oui, et plus encore, car nous pouvons aujourd'hui répondre avec le même élan d'enthousiasme, de foi et de sincérité que l'apôtre Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous sommes prêts à donner nos raisons. » L'existence historique de Jésus n'est plus contestée. Sa personne et son œuvre s'insèrent dans une trame historique éprouvée, bien définie. Il n'est pas enveloppé d'une brume légendaire, comme certains ont tenté de le démontrer. Jésus est un personnage réel, dont l'apparition en public est datée aussi solidement que celle d'un Néron ou d'un Napoléon. L'évangéliste Luc le situe exactement avec sa précision scientifique habituelle. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Peut-on souhaiter des détails plus précis et plus généreux? Il est intéressant de noter les premières phrases de l'Évangile selon Luc. L'auteur s'adresse à un nommé Théophile, auquel il confie que plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et c'est ainsi que nous avons l'Évangile selon Luc. La vie de Jésus est placée sous le signe de l'extraordinaire. Il s'attire de nombreux disciples, s'entoure d'hommes de confiance qui sont ses apôtres, et parcourt la Palestine en prêchant à des foules nombreuses. Il possède un pouvoir de persuasion merveilleux. Il captive les foules par des discours simples, où se détachent souvent les mots « amour »,« vie » et « vérité ». Cet homme possède en lui quelque chose de révolutionnaire. L'écrivain Daniel Rops remarque d'ailleurs très pertinemment que cet homme du petit peuple, sans culture, cet humble fils d'une nation déchue, né dans l'obscur canton d'une petite province romaine, ce juif sans nom, pareil à tant, que les procurateurs de César méprisaient, parle d'une voix si forte qu'elle couvre celle des empereurs eux-mêmes, ce sont là des surprises que l'histoire peut encore admettre. Mais sa vie, telle qu'elle nous fut dite, est issue de miracles. Tout y éclate d'une évidence surnaturelle, et ces faits surprenants peuvent si peu être détachés de l'étoffe de son existence que pour les supprimer, il faut déchirer l'étoffe même, nier cette existence entière, mettre en doute la parole de tous ses témoins. Mais la voix de ces témoins crie plus fort que les sifflements et les murmures de l'incrédulité. Ce sont eux qui nous éclairent sur la véritable identité de ce charpentier de Nazareth. C'est par eux que nous saurons si cet homme était vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant, ou si nous avons affaire à un imposteur de premier ordre. Il y en a bien un qui dira la vérité. L'histoire nous dit qu'il fut supprimé à cause de ses idées révolutionnaires. Mais, fait paradoxal, on parle de lui avec plus de ferveur encore après sa mort que de son vivant. Ce fait est étrange, parce qu'il ne s'agit pas de la réaction normale d'un peuple qui veut vénérer son martyr en quelques soubresauts de fanatisme qui finit toujours par se consumer de lui-même tôt ou tard. Au contraire, on le proclame vivant, et ceci depuis 2000 ans. On proclame ce suprême défi à la logique, sa résurrection. 25 ans après la date assignée par tous à la mort violente de cet homme sous Ponce Pilate, des écrits authentiques et relativement considérables, les lettres de Paul prennent pour thème fondamental Jésus de Nazareth, sa vie, sa mort et sa résurrection. Il dira notamment aux Corinthiens, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Qui était ce Jésus de Nazareth? On pourrait remplir d'immenses bibliothèques avec tous les livres qui ont essayé de répondre à cette question. Jésus demeure un sujet de contradiction, comme il l'a dit lui-même, surtout parce que les hommes ont choisi de ne pas croire ce qu'il annonçait lui-même. Mais toujours il intéresse, toujours il inquiète, il attire, il convertit. Le touriste qui visite la cathédrale de Saint-Paul à Londres et qui dirige ses regards du côté de la porte nord, remarquera une plaque de marbre sur laquelle est gravé le nom de l'architecte qui dirigea la construction de l'édifice. Christopher Wren, 1692-1723. Puis, quelques mots encore qui frappent par leur simplicité. « Si monumentum requiris, circumspice », ce qui veut dire « si vous recherchez son monument, regardez autour de vous ». Remarquez qu'on ne dit absolument rien de son génie. On ne fait aucune remarque élogieuse quant à son œuvre. L'inscription vous invite seulement à regarder autour de vous pour contempler l'œuvre, si vous voulez vous faire une opinion sur la valeur de l'ouvrier et de l'homme. De même, l'œuvre du charpentier juif de Nazareth est certainement plus éloquente que n'importe quel discours. On a essayé de le soumettre à des examens psychiatriques, d'où on en a déduit qu'il était tout près de la démence, sous l'empire d'une dangereuse mégalomanie, cette folie des grandeurs. En outre, l'épisode de la transfiguration ne révèle-t-il pas un tempérament hallucinatoire? Des médecins ont posé le diagnostic d'hémophilie à propos de la sueur de sang, ou celui de cétiophobie pour le désir de jeûner pendant 40 jours, voire de tuberculose pulmonaire. A-t-on jamais vu un fou, un déséquilibré, un malade mental et physique agir d'une manière sérieuse et durable sur la marche de l'humanité? Ce sont là les commentaires délirants d'hommes qui sont vraisemblablement atteints de maladies plus graves encore que celles qu'ils inventent à l'endroit de Jésus de Nazareth. Si nous interrogeons ceux qui ont été directement mêlés à ce mouvement, nous nous trouvons en présence de témoignages qui possèdent le plus haut degré de crédibilité que l'on puisse exiger, car la plupart sont des témoins oculaires qui ont préféré la mort plutôt que de nier ce que leurs yeux ont vu, ce que leurs oreilles ont entendu et ce que leurs mains ont touché. Ont-ils tous été dupés dans leur foi, car de toute évidence, ils étaient sincères? Ont-ils tous été complices d'une mise en scène monstrueuse, d'une vaste supercherie? Là encore, il faut constater que c'est impossible, car il n'y avait aucun avantage à retirer d'une telle imposture, puisque tous sont allés jusqu'à la mort. Peut-on concevoir l'idée de se prêter à une duperie et y persévérer fidèlement jusqu'à en perdre santé, liberté, bien et même la vie? Cela est insensé, illogique et impensable. L'apôtre Pierre ainsi que Jean vont à l'encontre d'un tel raisonnement lorsqu'ils affirment « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » C'est pour cela que leurs écrits attestent partout la divinité de Jésus-Christ. L'apôtre Jean dira « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'apôtre Paul dira qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, qu'il est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Rappelons aussi les paroles solennelles de l'Apocalypse de Jean. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Les prophètes n'avaient-ils pas dit qu'on l'appellerait « admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » Lorsqu'il expira sur la croix, après d'atroces souffrances, les gardes virent bien que ce n'était pas une mort comme les autres. Ils en avaient vu d'autres de crucifiés, mais pas comme celui-là. Et si nous avions été là, nous nous serions exclamés avec les gardes, « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. »